La science CQFD, Natacha Triou.
Dans la course permanente aux meilleurs algorithmes, elle est en très bonne place. Comment la firme DeepMind est devenue pionnière en intelligence artificielle? En 2016, une IA bat un champion du monde au jeu de Go. AlphaGo de DeepMind était déjà un tour de force technologique. Mais la firme de Google ne s'est pas arrêtée là. Avec cet été AlphaFold, un algorithme pour prédire la structure des protéines. Un problème sur lequel les biologistes s'arrachent les cheveux depuis 50 ans. Et la firme n'a pas fini de s'attaquer à des défis scientifiques de taille. DeepMind, tout un programme. Jamal Atif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en informatique à l'université Paris-Dauphine PSL et chargé de mission intelligence artificielle au CNRS. Avec nous également Julien Cornebis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé honoraire à University College London. Vous étiez l'un des premiers chercheurs de DeepMind et vous travaillez actuellement dans plusieurs startups avec Amnesty International et l'Agence Spatiale Européenne. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios Transculture. Alors cette émission peut se suivre sur les ondes, mais aussi sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd, où vous retrouverez toutes les études citées durant cette émission. Jusqu'à 17h, nous parlerons des spécificités de DeepMind, de ses prouesses scientifiques. Mais pour commencer, on revient en 1962, lorsque l'on fantasmait des machines à penser.
Et ceci nous amènera pour terminer à ce que l'on pourrait considérer comme un sommet qui n'est pas encore atteint, c'est la recherche de structures que l'on pourrait appeler auto-adaptables à leur environnement physique ou à leur environnement mental en quelque sorte, aux particularités de données imprévues, et au bout de cette direction, eh bien alors on aurait peut-être des machines qui seraient douées en quelque sorte de cette intuition dont vous parliez, monsieur Bosset. Je ne veux pas dire qu'elles sauraient qu'elles en sont douées, mais qu'elles feraient aussi bien que des hommes intuitifs.
Cela suppose certainement que nous serons un jour capables de réaliser des structures se rapprochant assez des neurones. On parle déjà à présent de neurones artificiels, mais les modèles physiques qu'on en propose sont extrêmement simples et très loin du modèle biologique visé.
Sûrement, car le nombre de calculateurs de grande puissance inclus dans un cerveau, la vitesse de réaction, l'infinie possibilité de simultanéité, la présence de mille et mille programmes interprétatifs fait songer à une machine qui serait en quelque sorte de la taille d'une ville.
Jamal Atif, une réaction à cette archive de 1962?
C'est passionnant. C'est passionnant d'écouter ça. On est dans les années 60, mais déjà les années 50 avaient vécu une période assez riche pour l'IA. Et là, ce qui était passionnant, c'est de voir ces descriptions des modèles à base de réseaux de neurones. Qui restent un peu les mêmes aujourd'hui, quelque part. On va dire, le composant de base dans les algorithmes qui marchent le mieux aujourd'hui, ça reste ce neurone dans une modélisation mathématique qui reste plutôt simple. On la doit à des chercheurs qui s'appellent McCulloch et Pitt pendant les années 40. En gros, on donne un petit modèle mathématique. En gros, un neurone reçoit un ensemble d'informations et quand l'agrégation des informations dépasse un certain seuil, on envoie ou pas un message. Ça, c'est cette structure-là, en fait, reste à peu près la même. Ce qui change aujourd'hui, c'est que on parle de modèles avec 1000 milliards de paramètres. C'est-à-dire ce nombre de neurones explose, on arrive, et surtout avec la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui, il faut se rendre compte, on est dans les années 60, l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, il datait de quelques années, la période post-guerre, qui a permis un bon signification de calcul, mais aujourd'hui, on arrive à entraîner avec beaucoup de données des modèles avec des 1000 milliards de paramètres, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de neurones, structurés de façon profonde, c'est-à-dire par couches. Alors, on est loin de comment fonctionne le cerveau humain, ça n'émule pas le cerveau humain, mais on arrive à traiter un ensemble de données conséquentes et apprendre, c'est-à-dire trouver les paramètres de ces modèles. C'est beaucoup, beaucoup de calculs et beaucoup de données aujourd'hui. Mais on y reviendra peut-être.
On y reviendra. Julien Cornebise, en réaction à cette archive, vous aussi.
Moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a deux parties. C'est que la notion de modèle physique simple, pour les modèles physiques de neurones simples, pour les étudiants et les lycéens qui nous écoutent, ce sont toujours les mêmes qu'on utilise. Ce sont des vecteurs et des matrices que l'on multiplie les uns aux autres, parfois en appliquant une tangente par-dessus ou une tangente hyperbolique. C'est-à-dire que ce sont des opérations qu'on voit au lycée, simplement, on en fait énormément. Et c'est là où le deuxième point de l'extrait vient, c'est que la nécessité de calculateurs de grande puissance qui ferait la taille d'une ville en 1962, si on regarde un super calculateur, le Cray 2, qui était le super calculateur quand je suis né, qui prenait une pièce entière, un fleuron de l'informatique, faisait à peu près un milliard d'opérations par seconde. On en est actuellement sur n'importe quel téléphone, avec n'importe quelle puce dans les téléphones modernes, on en est à plusieurs milliards d'opérations par seconde dans une poche. Donc c'est la combinaison de ces modèles très simples passés à grande échelle grâce aux capacités de calcul que l'on peut désormais avoir de tels résultats avec des modèles aussi simples.
Jamal Atif, on entendait dans notre archive de 1962 une machine douée d'intuition, des machines intuitives ou encore des machines proches des neurones artificiels dont on parle. C'est un peu ce que fait DeepMind aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si ce que... La notion d'intuition, elle est difficile à définir. Quand on parle d'intuition, quelque part, on parle d'intelligence. Alors ça, c'est une quête, hein, une quête d'avoir des machines qui soient intelligentes. Force est de constater qu'aujourd'hui, les modèles qu'on fait, même ceux les plus avancés, hein, introduits par DeepMind, ou qui étaient déjà introduits, mais DeepMind a permis une avancée conséquente, on est loin de cette idée d'avoir une sorte d'intelligence générale. Donc ça, soyons clairs, hein, on a des algorithmes qui font des tâches bien définies, entraînées pour faire des tâches spécifiques. On est encore dans ce qu'on appelle l'IA, entre guillemets, faible, même si les travaux qu'on en voit poussent un peu cette frontière, mais on est loin de modèles qui peuvent définir leur but, s'adapter à des choses pour lesquelles ils n'ont pas été faits pour.
Julien Cornebise.
Alors, la fascination de créer une intelligence générale, on l'a dans toutes les mythologies et dans toutes les religions. Je veux dire, le mythe du golem dans le judaïsme, dans la chrétienté, le Dieu qui fait l'homme à son image. Créer cet être artificiel, on en rêve tous. On en est effectivement, comme Jamal le dit, encore loin. Il y a de plus en plus d'avancées et je dois avouer que ces dernières années, je passe mon temps à me dire « Waouh, ça, je ne pensais pas qu'on pourrait le faire avant encore au moins 10 ans ». Et je me dis ça à peu près tous les 2 mois. Donc ça avance extrêmement vite. Il y a toute une catégorie de modèles qui s'appellent les modèles de grand langage ou modèles fondationnels, si on écoute l'équipe de Stanford qui les a baptisés ainsi, qui a même cherché à apprendre avec très peu d'exemples une fois qu'on les a entraînés sur une tâche très générale. On pourra en discuter plus tard, mais il y a énormément d'avancées. Après, la définition d'intelligence bascule dans le temps. Quand Garry Kasparov a été battu aux échecs par Deep Blue en 97, on s'est dit... qui avait été le but de l'intelligence artificielle pendant des années. Si un jour un ordinateur peut battre un humain aux échecs, alors on aura l'intelligence artificielle. En 97, on s'est dit, oui, mais bon, il ne s'est pas joué au tic-tac-toe ou au puissance 4, cet ordinateur. Donc, ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi un but mouvant, si vous voulez, dans le temps.
Un but mouvant et tout ça qui avance très vite. Mais on va d'abord revenir en arrière, en 2010, à Londres. Demis Hassabis, Mustapha Suleiman et Shane Legge fondent l'entreprise DeepMind Technologies, qui est vendue 4 ans plus tard à Google et qui devient en 2015 DeepMind. Alors vous, hein, Julien Cornebise, vous êtes l'un des premiers chercheurs de DeepMind. Alors ce sont des entreprises technologiques à cheval, hein, sur les déclarations de confidentialité, mais qu'est-ce que vous pouvez nous raconter des débuts de cette firme?
C'est fascinant, hein. J'y ai passé 4 ans, j'ai rejoint fin 2012. Nous étions 6 chercheurs dans une équipe de 30. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant, ce qui m'a attiré, si vous voulez, dans DeepMind, c'est cette volonté de Demis de créer une équipe qui puisse se concentrer entièrement sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc prendre un paquet de chercheurs, certains brillants, puis bon, ils m'ont laissé entrer, donc certains moins brillants, mais surtout tous réussir à les aligner pour ce goal, ce but commun. C'est quelque chose qui est plus difficile à obtenir dans le milieu académique où on a au contraire intérêt à creuser sa niche spécifique, où il y a des collaborations, et je pense que Prairie, dont Jamal est le chair, est justement un effort à saluer dans cette direction. Mais DeepMind a été créé pour être, un projet Apollo pour l'intelligence artificielle. Donc on met un tas de chercheurs ensemble et on les guide pour tous pousser vers ce but commun. Je trouve ça extrêmement attirant.
Jamal Atif, peut-être sur l'histoire même de Demis Hassabis, l'un de ses fondateurs.
Moi, ce qui me fascine, moi j'ai un regard extérieur, Julien connaît très bien l'entreprise, je connais pas très bien l'entreprise, j'ai des collègues qui ont rejoint DeepMind.
Mais de votre point de vue.
De mon point de vue, un peu de chercheur qui regarde. Voilà, moi ce que dit Julien, c'est ce qui me fascine un peu, c'est quand je regarde les travaux qui sortent, le nombre de co-auteurs et surtout l'effort d'ingénierie. C'est ça qui est intéressant. Nous, quand on est chercheur, bon, on a du mal à mobiliser plus d'une... de 4-5 chercheurs sur un thème. Là, on voit qu'il y a parfois plus 10 et avec beaucoup, beaucoup d'efforts d'ingénierie. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans l'histoire de DeepMind. Et je suis là aussi pour comprendre de Julien. C'est comment on arrive à mobiliser autant de chercheurs, mais aussi autant de puissance d'ingénierie pour s'attaquer à des problèmes qui sont réputés très difficiles. Je pense que le grand public a entendu parler de DeepMind avec AlphaGo. AlphaGo, c'est le jeu de Go. On savait que c'était un des problèmes difficiles de l'IA. La petite blague dans le domaine, c'est que dès que le problème est résolu, ce n'est plus de l'intelligence artificielle, ça devient de l'algorithmique. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec les jeux d'échecs et autres. Et voilà, moi ce qui m'intéresse quand je regarde leurs travaux, cette capacité à la fois d'avoir des chercheurs, mais aussi un grand effort d'ingénierie et de s'attaquer à des sujets qui pour nous étaient très difficiles. Après AlphaGo, ça repose sur d'autres travaux. Enfin, on va pas faire cocorico, mais il y avait un modèle qui s'appelle Mogo dans une équipe à Saclay, l'équipe Tao, et qui avait déjà développé un jeu de Go avec une architecture pas très différente de celle d'AlphaGo. Après, il fallait passer ça à l'échelle. Et donc là, la capacité de faire passer ces algorithmes à l'échelle, c'est de la recherche, certes, des gens comme Julien, mais aussi un effort d'ingénierie et un capitaine. Et je pense que Denis Hassabis, pour moi, je le vois de l'extérieur, c'est qu'il a eu cette capacité de réunir tout le monde sur un seul but. Apollo, comme le dit Julien, c'est une belle image.
Un bon capitaine d'ingénierie.
C'est Julien... une image qui vient de l'extérieur. Mais...
Julien Cornebise, hein, le rachat par Google, c'est un cap important.
C'est un cap très important. Il faut le remettre en fait dans la période 2014. DeepMind vient de montrer qu'on peut faire jouer un ordinateur à tous les jeux Atari et gagner à 50 jeux différents mieux qu'un humain. Beaucoup de différentes grosses compagnies se réveillent à ce moment-là. Google avait déjà son effort Disbelief sur un gros réseau une capacité de faire des gros réseaux de neurones en interne. Facebook, Meta venait d'embaucher Yann Lequin, un chercheur français qui est un des pères du domaine, parce que c'est important de rappeler que les succès de DeepMind sont pas construits dans le vide. DeepMind a construit le pont entre un domaine qui s'appelle l'apprentissage profond, les réseaux de neurones artificiels, et l'apprentissage par renforcement, si vous voulez, le chien de Pavlov, la capacité réflexe. DeepMind, ses premiers succès ont été créés sur le pont entre ces deux. Mais ces deux domaines ont été développés par nombre de chercheurs depuis des décennies. C'est vraiment important de le préciser. Toujours de nos jours, DeepMind n'opère pas dans le vide. Mais lors de l'acquisition, si vous voulez, à ce moment-là, DeepMind, en tant que petite start-up très bien financée, mais de quoi 80 personnes, qui essaient de construire en même temps tout un pan de développement commercial et de développement de jeux vidéo pour essayer de générer des revenus pour soutenir la recherche de l'intelligence artificielle, se retrouve face à des géants qui commencent à mobiliser de gros capitaux et de grosses équipes et, comme le disait Jamal, de très gros moyens d'ingénierie, où là, effectivement, il est temps d'aller sur l'épaule du géant qui soit le plus aligné, si vous voulez, en termes de but, en termes de valeur. Donc là, on rejoint Google, ce qui est une énorme façon d'accélérer les capacités de calcul, qui, bon, pour moi, en tant que Français, avec le petit village d'Astérix en tête, c'est vrai que j'adorais le fait qu'on soit une petite structure qui arrive à, quelque part, battre les géants à leur propre jeu, mais c'est un choix tactique qui s'est révélé absolument payant. Et pour mentionner l'ingénierie, pour la petite anecdote, quand DeepMind a été acquis par Google, nous avions plus de cartes graphiques, de ce qu'on appelle des GPU. C'est les cartes graphiques qu'on utilise dans les ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo, mais qui sont très très fortes à faire les multiplications de vecteurs et de matrices dont je parlais précédemment. Donc qui étaient très fortes pour les réseaux de neurones. Et DeepMind en avait plus dans son placard à ordinateur dans notre petite start-up que Google n'en avait à l'époque. Mais le fait d'être acquis par Google, Google voit ça et immédiatement déploie ses moyens colossaux pour amener des camions entiers de ces fameuses cartes graphiques pour accélérer les réseaux de neurones. Donc c'est ce passage à l'échelle qui est absolument remarquable.
Et Jamal Atif, hein, parmi les autres entreprises d'intelligence artificielle, hein, qu'est-ce qui distingue DeepMind des autres groupes concurrents comme Meta, Facebook ou OpenAI?
Ce qu'on observe, c'est de par les travaux qui sortent. Je pense que DeepMind, c'est... La perception qu'on en a, c'est qu'ils ont gardé une certaine indépendance au sein de Google. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais ils donnent le sentiment de travailler sur des vrais sujets de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Mais cette histoire change un petit peu parce qu'on a d'un côté OpenAI, Meta avec la partie FAIR, Facebook AI Research, Google avec Google Brain et d'autres entités. Voilà, on a l'émergence de ce type d'entreprise qui font de la recherche fondamentale en IA. Mais DeepMind donne toujours le sentiment d'aller pousser un petit peu la question fondamentale un peu plus loin. Donc on va s'attaquer au jeu de Go. On peut se dire pourquoi une entreprise va s'attaquer au jeu de Go. Quel est le modèle économique sous-jacent? Quand on a une entreprise qui fait AlphaFold pour la prédiction de moléculaire, pour l'empilement des molécules et faire avec des applications dans le science du vivant, on dit pourquoi une entreprise fait ça? Ou même sur le dernier résultat, on y reviendra certainement, quand on va découvrir de nouveaux algorithmes de multiplication de matrices, on se pose la question pourquoi une entreprise fait ça? Alors que des chercheurs au CNRS ou dans d'autres instituts peuvent s'intéresser au même sujet. C'est l'idée de s'attaquer à des sujets qui, pour nous, sont des sujets fondamentaux. Évidemment, si une entreprise, il faut qu'elle fasse de l'argent, donc il y a forcément une idée derrière la tête.
À la science produite par DeepMind, on va la décortiquer.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h16 sur France Culture, nous parlons des succès de DeepMind en compagnie de Jamal Atif et Julien Cornebise. Alors, on vient de parler de la naissance de cette firme de Google spécialisée en intelligence artificielle. Dans une interview, Demis Hassabis, son fondateur, a déclaré que la start-up avait commencé à travailler sur l'intelligence artificielle en lui apprenant à jouer à de vieux jeux des années 70, en lui faisant jouer à Pong et à Space Invaders. Julien Cornebise, le goût du jeu, c'est tout de suite ce qui marque les débuts de DeepMind.
Absolument, les débuts et puis toute la continuité. Il y a une logique très simple derrière, c'est que un jeu vidéo, c'est fait, ou même un jeu en général, c'est fait pour être suffisamment facile pour qu'un humain puisse y jouer avec plaisir, sinon si c'était impossible, on abandonnerait tout de suite, mais aussi suffisamment stimulant pour que l'humain ait plaisir à jouer. Donc ça appelle nos capacités de réflexion, nos capacités de réflexe, nos capacités d'observation, de différentes façons. C'est pas pour rien que le jeu est absolument fondamental dans l'éducation de jeunes enfants. C'est cette capacité à jouer qui est un très bon environnement pour tester des capacités de réflexion, pour tester des capacités de fonctionner comme un cerveau. Ce qui est encore plus puissant, c'est que dans le jeu, on a autant de données qu'on puisse en rêver. On n'a pas besoin d'aller péniblement étiqueter tout un tas d'images pour dire ça c'est une image de chien, ça c'est une image de chat, ça c'est une image de tortue. On n'a rien de tout ça. Il suffit de jouer contre l'ordinateur et de savoir à la fin est-ce qu'on a gagné, est-ce que mon score augmente. C'est un très bon signal pour savoir si on fait bien les choses ou pas. Je mentionnais tout à l'heure l'apprentissage par renforcement, le chien de Pavlov. Donc le chien de Pavlov, à chaque fois qu'on donne à manger à l'animal, on sonne une petite cloche et au fur et à mesure, l'animal apprend que si on sonne la cloche, il va se mettre à saliver car il attend la récompense. C'est un peu la même chose avec des jeux. En regardant le score, notamment sur les jeux comme Pong et les jeux d'Atari, où le score progresse au fur et à mesure du jeu et pas juste à la fin, on a la capacité de dire à notre algorithme, là tu fais du bon boulot, on a un bon signal, ce qu'on appelle une récompense en apprentissage par renforcement, on a une récompense constante qui lui permet d'avoir un très fort signal d'apprentissage.
Jamal Atif, aussi, derrière le jeu, il y a de vrais sujets, c'est ce qui se cache derrière le jeu, c'est de la planification dans l'incertain.
Oui, moi c'est comme ça que j'interprète aussi les travaux de DeepMind. Quand on va jouer au jeu de Go, il faut qu'on établisse une stratégie. Donc, à partir de ces récompenses. Mais l'idée, c'est au-delà de tout faire pour avoir une récompense immédiate positive, l'idée, c'est de gagner à la fin. Donc, c'est une succession de récompenses. Donc, comment je vais planifier, concevoir une stratégie qui va me permettre de gagner à la fin? Ça, typiquement, même s'il y a des doutes là-dessus, une voiture autonome, à condition qu'elle se crache pas à chaque fois qu'elle fait une mauvaise action, bah l'idée c'est d'élaborer, d'apprendre une stratégie. Si je veux faire une mission spatiale, bah c'est de la planification. On peut avoir recours à ces algorithmes d'apprentissage par renforcement ou on va appeler ça de la décision markovienne. Bon, bah c'est un terme un peu compliqué, mais peu importe. Ou alors des stratégies d'investissement par ailleurs. C'est comment je vais gérer mon portefeuille d'actions, et donc tout ça derrière. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est pas DeepMind qui va montrer ce genre d'application. On savait déjà que l'apprentissage par renforcement permettait de traiter ce type d'application. Mais là, l'idée, c'est de pousser ça un peu plus loin, combiner, comme l'a dit Julien, ce paradigme d'apprentissage par renforcement avec l'apprentissage profond, bah, a permis d'aboutir à des résultats. Et moi, quand je vois le jeu de Go, c'est ce qu'on... Alors, effectivement, quand on a fait AlphaGo, quand DeepMind a fait AlphaGo, elle a eu recours à des données étiquetées, il en fallait en masse. AlphaZero, bah, on n'a plus eu recours à ces données-là, mais la machine a joué contre elle-même pour élaborer sa stratégie, pour être de plus en plus performante. Ça, derrière, les marchés qui s'ouvrent, ce sont des marchés de planification dans un monde qui peut bouger par rapport à nos actions.
Alors, au petit contexte historique, on a donc Deep Blue développé par IBM en 1996 qui bat le champion du monde d'échecs Gary Kasparov. 2016, AlphaGo gagne contre Lee Sedol, le champion du monde du jeu de Go. Alors pourquoi, Julien Cornobis, quel est l'enjeu de gagner au Go? C'est parce qu'il y a un nombre encore plus grand de possibilités qu'au jeu d'échecs?
Exactement. En fait, un jeu, que ce soit le jeu d'échecs ou le jeu de Go, imaginez ça comme un arbre. Vous commencez de la position de départ, c'est la racine de votre arbre. Là, vous avez plusieurs branches qui partent, une qui correspond à chaque action que vous pouvez prendre. Si je pose un pion à gauche, à droite, au centre, vous avez ce qu'on appelle un nombre de branches. Ce nombre de branches, à chaque coup, traduit la complexité du jeu. Parce qu'à chaque fois que vous avez une branche, ben voilà, vous faites un mouvement, mais il y a encore d'autres branches qui suivent, et vous multipliez de façon exponentielle le nombre de possibilités. Dans le Go, le nombre de positions est bien plus grand que dans le jeu d'échecs. Par ailleurs, pour ajouter à la complexité, aux échecs, vous bougez, la position d'où vous venez importe peu, vous n'y êtes plus. Tandis qu'au Go, quand vous posez une pierre, elle reste jusqu'à la fin du jeu. Donc il y a une grande dépendance temporelle. Pour reprendre les mots de Jamal, la planification n'est pas markovienne dans ce sens-là. Markovienne, c'est une question de mémoire limitée. Là, on a une mémoire infinie. On a des conséquences sur le long terme. Donc le jeu de Go était pour ça considéré comme inatteignable, en tout cas pas avant 10 ans. C'est là le vrai choc quand en 2016, DeepMind bat Lee Sedol par 4 jeux contre 1, c'est que tout le monde s'attendait à ce que le Go soit finalement faisable. Mais bon, voilà, en 2030, là 2016 venant nulle part, ça a surpris énormément de monde.
Alors là, cette technique exploratoire dont vous parlez, Julien Cornobis, c'est la méthode de fouille d'arbre Monte Carlo. Est-ce que je peux vous demander un peu de nous expliquer un peu mieux ce que c'est, Jamal Atif?
Alors, ça, c'est un vrai challenge. Alors, dans AlphaGo, et Julien complétera, il y a une partie où on va apprendre à partir de parties jouées, qu'on va voir comme des images, et à chaque situation, on sait si on a gagné ou pas. Mais là, il faut imaginer qu'on est dans un arbre. Et donc, je suis dans un nœud de l'arbre, dans une situation, et donc, à chaque action, se déploie des branches. D'accord? Ben, l'idée ici, c'est qu'on ne peut pas regarder l'ensemble des branches. C'est juste pas possible d'un point de vue calcul. Il faut attendre, je sais pas, des centaines d'années, je sors un chiffre comme ça. Ben, l'idée, c'est comment on va échantillonner des chemins dans ces arbres-là. D'accord? Si j'échantillonne un chemin, je peux jouer la partie, simuler une partie pour aller jusqu'à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle Monte Carlo Research ou la recherche arborescente Monte Carlo qui est un peu au cœur de ces algos. Enfin, en tout cas, dans la partie AlphaGo. Et là encore, la partie Monte Carlo Research était déjà dans la littérature. On avait des collègues en France, Tristan Cazenave en est un, qui avait appliqué ce type d'échantillonnage dans des arbres, dans d'autres jeux, y compris dans les jeux de Go, mais on n'était pas à ce niveau-là.
Le MoGo dont vous parliez tout à l'heure.
Alors, c'était dans MoGo, mais...
Les équipes là-haut.
Et c'était là encore dans d'autres jeux, en fait. Il y avait déjà une recherche. Alors, il ne faut pas dire que DeepMind est venu pour attaquer le jeu. Il y avait déjà des algorithmes sur le jeu. Il y avait même des conférences sur le game. Et ces techniques-là existaient. Maintenant, Ce qui était fascinant, c'est de combiner ça avec les avancées en apprentissage profond, notamment en vision par ordinateur. On avait des réseaux de neurones spécifiques convolutionnels qui marchaient très bien sur des images. Et c'est cette combinaison-là qui a permis à AlphaGo d'aboutir au résultat dont vous parliez face à Lee Sedol.
Oui, c'est ça, c'est que la technique, la phase exploratoire de la méthode de Monte Carlo, ça c'est pas nouveau, mais dans le cadre d'AlphaGo, c'est le fait de mélanger cette technique exploratoire avec l'utilisation de réseaux de neurones, hein, Julien Cornobiz.
Exactement. Donc, tout à l'heure, Jamal parlait de la notion d'intuition et la notion d'intuition d'intelligence artificielle. Quand un joueur de Go ou un joueur d'échecs regarde un plateau, une certaine position, les pièces sont en milieu de partie, ils sont tout de suite capables de dire « il y a une certaine beauté, il y a une certaine symétrie, le jeu est en bonne posture, ou au contraire, ouh, là c'est en mauvaise posture », sans avoir à planifier 150 coups d'avance, juste en regardant et en analysant. C'est une forme d'intuition et d'analyse, si vous voulez, presque réflexe du plateau. La partie réseau de neurones était très forte dès 2016, et même dès 2012, à faire ce genre de reconnaissance. Je parlais tout à l'heure de reconnaître un chat d'un chien dans une image. Bah, imaginez que l'image, c'est pas un chien ou un chat, mais un plateau, et regarder ce plateau et dire « je pense que là, oui, j'ai de bonnes chances de gagner », c'est cette capacité d'intuition que le réseau de neurones capture. Et on le connecte à la recherche de Monte Carlo Research, la recherche d'arborescente de Monte Carlo, en prédisant, là, je suis au début de cette branche, vu la tête de la branche, vu la tête du nœud, il y a de bonnes chances que je gagne, ça vaut peut-être le coup que je creuse un peu plus dans cette branche-là. Celle-là, par contre, oui, non, elle est complètement morte. Si je fais ce mouvement-là, je suis complètement dans les choux, j'ai aucune chance de gagner. Donc, c'est l'utilisation du réseau de neurones pour ce qu'on appelle élaguer, si vous voulez, l'arbre de recherche.
Oui, c'est ça. Et puis, AlphaGo a été initialement entraîné pour imiter les joueurs humains. Il s'est entraîné à jouer des millions de parties contre d'autres instances de lui-même. Et pour ça, il utilise donc le fameux apprentissage par renforcement, Julien Cornobiz.
Tout à fait.
Le chien de Pavlov ou le bâton et la carotte.
Exactement. Ce qui a été assez magnifique, c'est que de voir quand Lee Sedol, dans ce match, faut imaginer pour l'ambiance dans les labos, il y a l'équipe qui est sur place en Corée, bien sûr, donc ça se joue en milieu de journée. Pendant ce temps, dans le bureau à DeepMind, il est 3 heures du matin, et on est 150 chercheurs à 3 heures du matin dans le bureau, les yeux rivés sur les écrans, à avoir accès non seulement au fil officiel, si vous voulez, à voir ce qui se passe, mais aussi nous avons accès, en vue uniquement, au plateau intérieur, ou à la représentation intérieure de l'état du cerveau d'AlphaGo. Et ce qui a été magnifique à voir, dans le fameux quatrième jeu où Lee Sedol a gagné contre AlphaGo, il y a ce moment clé dans le match où Lee Sedol fait un mouvement qui déstabilise complètement AlphaGo. AlphaGo, à l'intérieur, si vous voulez, a deux façons de prédire sa probabilité de succès. Et normalement, ces deux probabilités sont jamais tout à fait d'accord, mais elles évoluent de la même façon. Elles sont toutes les deux de plus en plus confiantes qu'il va gagner ou de moins en moins confiantes qu'il va gagner. Et là, tout d'un coup, Lee Sedol, avec ce mouvement de génie, fait se contredire AlphaGo. Les deux systèmes au cœur d'AlphaGo, l'un pense que oui, on a de plus en plus de chances de gagner, tandis que l'autre devient de moins en moins confiant et voit le début de la fin. Et on n'avait jamais vu ça dans tous les matchs d'entraînement, dans toutes les centaines de milliers d'années de jeux qu'AlphaGo avait fait lui-même. Je dis centaines de milliers d'années parce que bien sûr, AlphaGo joue à toute vitesse et a le temps en une nuit de faire ce qu'il faudrait à un professionnel du Go plusieurs décennies pour avoir en termes d'expérience. Donc c'est assez magnifique de voir quand même que même dans ce match-là, où au final AlphaGo a gagné 4 jeux contre 1, l'intellect de Lee Sedol a permis de pousser l'algorithme complètement dans ses retranchements.
Et bien un an après, AlphaGo va perdre avec un score de 0 contre 100. AlphaGo va perdre contre AlphaGo 0, le nouveau bébé de Google DeepMind. Julien Cornobiz, quelle différence entre ces deux logiciels?
Alors, la différence, elle est, comme Jamal l'avait mentionné, c'est AlphaGo avait commencé d'être entraîné de façon qu'on appelle supervisée, c'est-à-dire en lui montrant, voilà une série de jeux, voilà comment les humains ont joué. Donc, on a pris les parties enregistrées sur un serveur de Go en ligne. De la même façon que si vous jouez à un jeu vidéo en ligne, tout est enregistré. Ben, il y a ça pour les serveurs pour jouer au Go sur Internet. On a utilisé ça et AlphaGo a commencé par apprendre par imitation avant d'ensuite apprendre à jouer lui-même. Ensuite vient AlphaZero, où cette fois-ci AlphaZero, on oublie complètement l'expérience humaine et on s'entraîne uniquement en jouant, en ayant AlphaGo contre AlphaGo, ou AlphaZero, plus exactement AlphaZero-BB contre AlphaZero-BB aussi. Essayant des choses, ah bah tiens, non, là, ça marche pas. Ah tiens, quand je fais ça, je gagne. Je gagne contre moi-même, ah bah, je vais essayer de faire ça plus souvent. Et ainsi de suite, et sans jamais avoir, de, si vous voulez, de supervision humaine, uniquement la notion de voilà quelles sont les règles du jeu, qui est une différence entre AlphaZero et MuZero, on y reviendra. Donc voilà quelles sont les règles du jeu, et bah tiens, voilà, bravo, t'as gagné. En fin de partie. Donc, c'est l'une des deux, et pardon, la deuxième, c'est aussi que AlphaZero, lors du match, ne se tournera que sur une machine, alors que la précédente version tournait sur tout un data center, tout un centre de données, plein de serveurs. Donc une capacité de calcul réduite pour des performances augmentées.
Jamal Latif ?
Oui, le résultat AlphaZero est plus impressionnant en réalité qu'AlphaGo. AlphaGo, c'est on fait de l'apprentissage à partir de parties déjà jouées, donc on capitalise sur les avancées en apprentissage profond. Donc ça nécessite d'avoir des données. Bon, il se trouve que y avait des vidéos. Ça nécessite beaucoup beaucoup de temps de calcul, donc consommer ces fameuses cartes graphiques qui marchent très bien pour ce type de problème. Et avec ces algorithmes d'arborescence Monte Carlo. AlphaZero, le fait qu'il y ait du self-play, la machine joue contre elle-même, donc s'auto-améliore en exploitant pleinement le paradigme de l'apprentissage par renforcement. Là, ça devient intéressant. C'est encore plus intéressant, en réalité. Donc voilà, et ce que pointe Julien est très intéressant. Dès lors, on va avoir recours à des algorithmes d'apprentissage profond sur des images en particulier, il y a besoin de grappes de calcul, beaucoup de calculs. C'est mon interprétation du fait que DeepMind ait rejoint Google, c'est justement pour avoir accès à plus de ressources. Je ne sais pas si tu es dans un moment de vérité, mais Damien Hassabis, quand il était venu en France en 2018, me semble-t-il, quand le président de la République avait inauguré le plan national en intelligence artificielle suite au rapport Villani, donc parmi les invités, il y avait M. Hassabis, quand il avait pris la parole, il avait expliqué qu'il rejoignait Google pour avoir accès à plus de calculs. Là, on était encore dans AlphaGo. Quand on voit ce qu'on peut faire sans avoir recours à la partie supervisée, on a des images, des vidéos qu'on analyse, et de dire juste par une stratégie de self-play, on joue contre soi-même, on arrive à ce type de résultat. Bon, là, on commence à être un peu plus intéressé.
Pocket Calculator à 16h33 sur France Culture, car nous parlons de la puissance de calcul de DeepMind, mais pas que. On en parle avec nos deux invités du jour, Jamal Latif, professeur en informatique à l'université Paris-Dauphine PSL et chargé de mission intelligence artificielle au CNRS, et avec Julien Cornebise, professeur associé honoraire à University College London et l'un des premiers chercheurs de DeepMind. Alors nous venons de parler des prouesses que sont AlphaGo, AlphaZero, des algorithmes de jeu qui peuvent vaincre tout champion du monde au jeu de Go. Et cet été, DeepMind s'est attaqué à un autre problème de taille, prévoir la structure en 3D de la quasi-totalité des protéines connues, AlphaFold. Alors, Julien Cornebise, on peut peut-être rappeler ensemble l'importance et le défi que cela représente pour les biologistes moléculaires.
Absolument, c'est, si vous voulez, bon, on a les protéines, ce sont les si vous voulez, c'est les travailleurs du vivant. C'est quand on a une réaction biologique dans notre corps, c'est à chaque fois, ce sont des protéines qui s'y collent, qui coupent certaines molécules en plusieurs morceaux, qui font le travail dans les cellules. Bon, c'est vraiment la bête de somme, la protéine, si vous voulez. Et on sait les décrire, on sait lister les acides aminés qui les construisent. Un acide aminé, vous prenez le gène, vous le traduisez, ça vous donne une suite de caractères. Il y a 20 caractères possibles, 20 acides aminés, 20 blocs de base. La question, c'est comment est-ce qu'on passe de cette séquence d'acides aminés, cette série de lettres qui décrit, à la structure 3D de cette protéine, parce que la fonction suit énormément la forme. Une protéine se plie d'une certaine façon, ça veut dire qu'elle peut rentrer, s'emboîter dans une autre, un peu comme des Legos, ou un peu comme des engrenages, et peut commencer à faire bouger d'autres parties du vivant. Et cette prédiction, savoir prédire la structure 3D à l'aide de la structure, de la série d'aminoacides, est extrêmement importante, parce que la structure 3D, pour l'observer, ça nécessite de la cristallographie à rayon X, ça nécessite une capacité d'imagerie et expérimentale qui est très coûteuse et très longue, alors que l'extraction de séries d'acides aminés est plutôt facile et plutôt très peu chère en fait. Donc cette capacité de prédiction de la structure 3D est extrêmement importante en biologie.
Oui, c'est ça, c'est qu'avant, déterminer la structure 3D des protéines, on a réussi à le faire en 160 000 protéines, mais grâce à des techniques, comme vous dites, expérimentales, qui sont très très lourdes. Jamal Latif, AlphaFold pourrait donc aider les chercheurs à démêler la structure de 200 millions de protéines. Ça, c'est une petite révolution pour la biologie moléculaire.
Une révolution.
De nouveaux médicaments.
Effectivement. C'est une évolution conséquente, disons-le comme ça. le résultat est assez remarquable. Et c'est très intéressant de voir comment des algorithmes qui étaient faits pour d'autres tâches peuvent répondre à des problèmes dans l'essence du vivant. Donc là, de plus en plus, les algorithmes deviennent un peu... on va dire générique, le terme fondationnel a été utilisé par Stanford pour une classe d'algorithmes, mais voilà, enfin de se dire, pour une même structure d'algorithme, ça peut apporter des réponses dans d'autres domaines. Et c'est d'autant plus intéressant quand on s'intéresse à une des sciences les plus fondamentales dans nos vies, la science du vivant. Ça veut dire, en gros, si on arrive à démêler, trouver la structure des protéines, on peut faire du molecule design, de nouvelles molécules sur des cibles thérapeutiques, comprendre le vivant. C'est pas rien, comprendre le vivant. Et donc, l'IA participe à ça, on est plutôt content qu'elle participe à d'autres tâches. Et moi, je suis quelque part, en tant que scientifique au CNRS, je suis jaloux que ça vienne de DeepMind. J'aurais bien voulu que ça vienne d'équipes de chercheurs. Et c'est très remarquable.
Mais d'ailleurs, Demi Sahibi, c'est un fondateur de DeepMind, a été récompensé par le très prestigieux Breakthrough Prize 2023 pour ses travaux. Julien Cornebise, un petit mot quand même pour dire comment fonctionne AlphaFold, comment prédire des structures probables pour des protéines éloignées de tout ce qu'on connaît.
Mais alors c'est là où on en revient au fait que DeepMind ont construit sur si vous voulez, l'effort de chercheurs à travers le monde, et ne se fait pas de zéro, si vous voulez, c'est que depuis des décennies, ou en tout cas facilement 10-15 ans, il y a des compétitions de prédiction de structures moléculaires et de structures de protéines. Il y avait des algorithmes qui existaient déjà, il y avait le programme Rosetta Fold, qui est un algorithme de simulation de... plis de protéines, si vous voulez. Donc, DeepMind peut arriver dans ces compétitions et construire sur la présence de ce simulateur et, en fait, sur, quelque part, le jeu que représente cette simulation et cette compétition. Donc, dans ce jeu, on se retrouve à prendre des actions qui est, bah, tiens, là, je me tourne plutôt à droite ou plutôt à gauche, ou l'angle entre ces deux acides aminés va être plutôt de telle nature. C'est cette série de choix, si vous voulez, cette série d'actions, tout comme aux échecs, qui amène ensuite à un succès qui est une mesure de la proximité entre la prédiction et la structure 3D mesurée sur un ensemble de protéines gardées de côté comme échantillon de validation.
Oui, c'est ça, c'est que sont les 200 000 structures qui ont été résolues expérimentalement depuis 50 ans, ça a permis d'entraîner justement AlphaFold, et sans ça, AlphaFold n'existerait pas.
Exactement. Et Jamal mentionnait l'utilisation d'algorithmes et aussi le but, si vous voulez, pourquoi une entreprise travaille là-dessus. Et si vous regardez la mission de DeepMind, qui est sur leur site web depuis le début, il y a une logique très particulière dedans. La mission, c'est étape 1, résoudre l'intelligence artificielle. On peut discuter de ce que ça veut dire. Ça peut être grandiose, mais les missions de compagnie et de start-up le sont souvent. Étape 2, l'utiliser pour résoudre tout le reste. Ah, c'est grand, on peut en discuter, mais le but est là, si vous voulez. Donc, créer des algorithmes qui ensuite puissent être appliqués à d'autres domaines. Et Denis a une passion pour la science et pour tous les développements qui sont, si vous voulez, en amont de la découverte scientifique. Donc, se concentrer sur le pli des protéines pour qu'ensuite d'autres chercheurs et d'autres structures, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, puisque ce travail avait été fait, si je ne m'abuse, en partenariat à un moment avec le Crick Institute, grand institut public au Royaume-Uni, pour que ces autres structures puissent construire sur le produit de ces algorithmes.
Les techniques d'apprentissage profond à l'image d'AlphaFold sont de plus en plus répandues dans le domaine de la biologie et notamment de la biologie computationnelle. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
On a eu un petit bug de virgule musicale.
Ça arrive, c'est l'hiver.
Mais c'est le reportage du jour, et ce reportage du jour, vous nous emmenez à l'Institut Pasteur où des équipes utilisent ces technologies.
Oui, je me suis rendu à la rencontre de Christophe Zimmer, qui est responsable du laboratoire d'imagerie et modélisation au sein du département de biologie computationnelle de l'Institut Pasteur. Avec son équipe, il utilise l'apprentissage profond pour améliorer les performances d'une microscopie d'un genre particulier qui s'appelle la microscopie super résolutive. Cette microscopie permet d'observer dans les plus grands détails des structures moléculaires à l'échelle nanométrique, mais elle a un principal défaut, c'est le temps très long nécessaire à ses prises de vue. Et c'est grâce à des outils d'apprentissage profond que cette lenteur sera sans doute demain un lointain souvenir. Christophe Zimmer nous dit donc comment fonctionne cette approche mobilisant le deep learning et quelles pourraient en être les conséquences pour notre compréhension du vivant.
La microscopie classique a une résolution qui est limitée à peu près la moitié de la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire 200 nanomètres. Ça ne permet pas, en fait, de décrire des structures à l'échelle moléculaire qui est plutôt de l'ordre du nanomètre ou la dizaine de nanomètres. Et donc, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, il y a plusieurs techniques concurrentes, dites super résolutives, qui permettent d'améliorer la résolution d'un facteur 10, voire 100 parfois. Notre équipe s'est intéressée, en fait, à ces techniques, à l'une de ces techniques, en fait, qu'on appelle la microscopie de type pointilliste, qui consiste à faire clignoter des molécules individuelles et ensuite à les localiser précisément grâce à des algorithmes que l'on développe spécifiquement pour ça dans l'équipe. Et en combinant toutes ces coordonnées, en fait, qui ont été calculées à partir de dizaines ou centaines de milliers d'images brutes, on peut reconstruire une image dont la résolution est 10 ou parfois 20 ou 30 fois plus meilleure que celle des microscopes classiques. Et donc ça permet d'observer des détails qui étaient flous à la base. Donc, par exemple, la structure de pores nucléaires, qui sont des complexes moléculaires très importants dans les cellules, ou bien des filaments d'actine ou de microtubules qui font partie de ce qu'on appelle le cytosquelette des cellules, qui permettent aux cellules de se déplacer notamment. Mm-hmm. Ou encore la structure de la chromatine qui nous intéresse plus particulièrement dans le laboratoire.
Est-ce qu'on pourrait voir certains de ces résultats? Est-ce que vous pourriez m'en décrire et qu'on voit l'avant-après passage de l'outil d'apprentissage profond pour bien cerner...
C'est ça, donc je n'ai pas répondu à votre question sur l'apprentissage profond en fait. Donc une des limitations de cette technique, c'est qu'elle est extrêmement lente, cette microscopie de type pointilliste, puisqu'il faut avoir obtenu des dizaines ou des centaines de milliers d'images pour pouvoir reconstruire une seule image à haute résolution. Donc ça, c'est illustré ici. Hein.
Décrivez-nous un peu ce qu'on regarde là en ce moment.
Oui, donc ici, vous avez une image de microtubule prise avec un microscope classique. Bon, on peut distinguer des filaments, mais pas des filaments individuels. Alors ici, on regarde exactement le même champ, donc la même partie de cette cellule, mais en faisant clignoter les molécules individuelles. Mmh. Et ensuite, par les algorithmes que j'évoquais, on peut localiser chaque molécule individuellement avec une grande précision et reconstruire cette image. Donc, vous voyez qu'elle permet de distinguer des filaments individuels de microtubules qui étaient flous dans l'image basse résolution. Par contre, le gros inconvénient de cette technique, c'est que, alors qu'il faut 30 millisecondes environ pour une image en basse résolution, là on a mis 30 minutes pour obtenir cette image super résolutive. Donc c'est extrêmement lent.
Et donc l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer ce processus d'imagerie, parce que l'apprentissage profond finalement aura intégré des paramètres qui lui permettront de combler ces manques provoqués par cette imagerie super résolutive.
On peut dire les choses comme ça, effectivement. Donc ce qu'on voit là, c'est une image de microtubule pointilliste, mais qui n'a été obtenue qu'à partir de 300 images individuelles. Donc vous pouvez voir qu'elle est très bruitée ou très parcimonieuse, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vraiment distinguer les structures continues comme on s'attendrait à les voir pour des microtubules. Et donc, après une phase d'entraînement, en fait, hein, sur les images de haute qualité comme celles que je montrais précédemment, comme ça, ce réseau de neurones a été capable de sortir l'image que vous voyez ici, donc dans laquelle on distingue très clairement des filaments bien résolus. Et évidemment, on a validé cette technique, c'est-à-dire qu'on a comparé l'image qui sortent de l'algorithme à celle qu'on aurait obtenue en y passant 100 fois plus de temps. Mmh. Et comme vous pouvez voir, les deux images sont en excellent accord entre elles. Mmh. Et donc, dans ce cas, on considère qu'on a pu, par cette technique, accélérer le processus d'acquisition d'images d'un facteur 100 environ. Alors, pour l'instant, on n'en est qu'au début, en fait, du développement de ces techniques. Donc, on s'est intéressé aux microtubules parce que ça facilitait, en quelque sorte, la démonstration de principe. Mais donc là, on a quelques exemples qui montrent que ça marche également sur des structures complètement différentes, comme les pores nucléaires. Et donc là, vous voyez des mitochondries, hein, qui sont des organelles beaucoup plus complexes, qui adoptent des morphologies très variables, et pour lesquelles la technique permet également d'accélérer l'imagerie. Donc, comme je disais, en fait, on n'en est qu'au début. Et l'un des objectifs du laboratoire maintenant, c'est d'aider à constituer une base de données d'images super résolutives de nombreuses protéines différentes pour pouvoir entraîner des modèles de ce type qui seraient beaucoup plus génériques. Ce qu'on vit, c'est une sorte de modèle universel qui permettrait d'accélérer l'imagerie de n'importe quel type de protéines. Sachant que quand je dis n'importe quel type, c'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines protéines pour lesquelles cette méthode ne serait certainement pas applicable, notamment les protéines qui se distribuent de façon aléatoire, par exemple sur les membranes.
On en revient à un élément basique quand on parle d'outils d'apprentissage profond, c'est que plus l'outil en lui-même a de données et peut traiter de données, et plus ses résultats seront performants. Donc ça, c'est cette plateforme ouverte que vous lancez, qui s'appelle Sherlock, Share comme partager en anglais, et Loc, L-O-C. Du coup, ça signifie qu'il y a d'autres laboratoires qui vous font parvenir des données. Ça se passe comment, cette interaction-là?
Oui, alors là aussi, on n'en est qu'au début, parce qu'on vient seulement de publier cette plateforme. Et donc, pour l'instant, il y a une demi-douzaine de laboratoires qui ont contribué des données. Et on espère que cette plateforme sera utilisée par toute la communauté, en fait. Il y a des centaines, voire sans doute peut-être des milliers de laboratoires dans le monde qui utilisent cette technique.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Julien Cornobiz?
C'est un régal justement de voir que ces outils sont utilisés à de plus en plus d'endroits, pour de plus en plus de projets auxquels leurs créateurs pourraient même pas songer, si vous voulez. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, et pour les auditeurs c'est qui sont ici, qui se demandent comment est-ce que je peux avoir, moi, un impact dans ce monde-là et dans toutes ces applications, c'est qu'on crée des outils qui sont fantastiques, mais toute technologie, c'est juste un outil, c'est jamais une solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à résoudre tous les problèmes du monde avec une technologie. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier les différentes forces humaines qui sont à l'œuvre. Et c'est valable pour l'intelligence artificielle, c'était valable pour le feu, si vous voulez, un bâton avec un bout de feu dessus, si vous voulez. Bien sûr, j'encourage un maximum de jeunes auditeurs à aller travailler dans ces domaines, mais encore plus, toute personne a son mot à dire justement sur les forces humaines, sur créer les forces humaines qui vont ensuite conditionner la façon dont ces algorithmes vont être utilisés. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, au-delà de la performance technique. J'adore les algorithmes, mais c'est leurs utilisations et la façon dont notre société les crée qui est absolument haletant.
Jamal Atif, ce qu'on vient d'entendre aussi dans ce reportage, hein, c'est qu'on voit bien que le deep learning, c'est de plus en plus utilisé en science avec des applications aussi diverses que variées.
Oui, mais je vais quand même me permettre de faire une petite entorse et de compléter ce que disait Julien. C'est fascinant de travailler dans ces domaines. Le potentiel pour transformer la société, il est là, mais aussi la science. Et pour ça, on a besoin de former davantage en mathématiques et en informatique et davantage de filles. On sort des assises des mathématiques et je profite de ce moment pour inciter tout le monde, les jeunes et les filles, à venir. Il y a de belles maths derrière tout ça.
Ce sera notre émission de demain, justement, sur les mathématiques françaises
et
sur les mathématiques.
Et l'informatique et l'algorithmique, c'est fascinant. Maintenant, pour revenir effectivement sur votre question, oui, on se rend compte que ce domaine en particulier, le deep learning, on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais en tout cas l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, a ce potentiel d'accélérer les découvertes en sciences. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est au cœur de la démarche scientifique. Ce que l'on fait, c'est de la science de l'induction. C'est-à-dire comment, à partir d'un ensemble d'observations, on émet des règles qui restent générales. C'est la capacité à construire des règles générales à partir d'un ensemble d'observations. C'est au cœur de la démarche scientifique. Aujourd'hui, on a des outils, on a des technologies pour faire ça. Et donc, du coup, quand on fait de la science par induction, on peut faire aussi de la science en construisant un modèle qui m'explique l'observable. Ben, à un moment, il faut combiner les deux. Pour faire avancer la science, il faut produire de la connaissance, mais aussi il faut produire un modèle qui explique la connaissance. Et c'est ça le futur.
Mais ce qui est intéressant aussi, bon, c'est la fin de notre émission, mais j'avais envie de vous poser cette question, Julien Cornubiz, et à vous, Jamal Atif. Mais Julien Cornubiz, on voit que DeepMind, c'est une entreprise privée, mais qui a créé des structures de recherche avec une qualité académique. Est-ce que c'est un modèle pour la recherche publique, une source d'inspiration?
C'est une excellente question. Après, il y a une question de moyens qui sont mis, il y a une question de concentration sur un sujet. La recherche publique a aussi pour but de couvrir énormément de sujets différents et de domaines différents, alors que DeepMind se concentre de façon absolument laser sur un sujet particulier qui est celui de l'intelligence artificielle. Donc, j'aurais pas prétention de dire au CNRS, ou à l'INRIA ou à Prairie, oh si, allez-y, faites exactement comme ça. Il y a beaucoup. Par contre, ce qui est beau, c'est effectivement la coordination ingénierie, chercheurs, et ce que disait Jamal tout à l'heure, c'est cette capacité de mettre plein de personnes ensemble et plein de cerveaux sur un but commun.
Et bien en même temps, c'est aussi des recherches qui sont transversales, les recherches que mène DeepMind. Julien Cornubiz.
Tout à fait, elles sont transversales, mais si on n'avait pas le chercheur de l'Institut Pasteur que vous venez d'interviewer, si on n'avait pas les chercheurs qui ont travaillé en biologie moléculaire depuis des décennies, on n'aurait pas AlphaFold, on n'aurait pas les applications de toutes ces technologies. Donc, on a besoin de cette diversité.
Jamal Atif, hein, DeepMind, comme ce qu'on peut dire que c'est un laboratoire de recherche, vu ce lien fort avec le milieu académique.
Je pense qu'il se présente aussi comme un laboratoire de recherche. Et je rebondis sur ce que vient de dire Julien. Sans une démarche de science ouverte, sans des recherches qui ont été menées, aidées par la puissance publique depuis des dizaines d'années, on n'aurait pas les résultats de DeepMind aujourd'hui. Donc il faut le rappeler. En fait, DeepMind existe parce qu'il y a un investissement massif, un investissement dans la recherche publique, dans la durée, qui a permis, dans une logique de science ouverte, s'il n'y avait pas des bases de données de protéines qui existaient, on n'aurait pas AlphaFold. Si les collègues n'avaient pas publié leurs résultats sur Monte Carlo Research, on n'aurait pas eu AlphaGo. Donc DeepMind, ça capitalise sur des résultats de recherche qui sont faits dans les laboratoires académiques. Maintenant, ils transforment l'essai. C'est là où on a à apprendre. Et il ne faut pas. Moi, je plaide pour ne pas opposer les deux modèles, mais quand c'est opportun, de faire équipe. Nous, on ne sait pas, il faut l'admettre, on ne sait pas faire de l'ingénierie à cette échelle-là. Il faut peut-être qu'on apprenne à le faire. Après, notre cœur de métier, c'est de faire avancer la science fondamentale. Et donc ça reste quand même dans les laboratoires académiques.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de son plan stratégique sur l'intelligence artificielle, le CNRS a lancé son centre IA pour la science et science pour l'IA. Merci infiniment à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir raconté cette success story. Il est l'heure de retrouver la chronique quotidienne « Le pourquoi du comment », une chronique signée Étienne Klein.
le temps a-t-il vraiment une tête de fleuve ? Certaines images se sont incrustées dans le langage ordinaire au point de porter, voire d'emporter, notre façon de penser. Il en est ainsi de la métaphore du fleuve qui irrigue la plupart de nos représentations du temps. Avec pareille image, ancestrale, éloquente, il s'agit pourtant de se montrer prudent. Elle pourrait charrier toute une série de propriétés implicites, devenues si solidaires de nos représentations du temps que nous omettons de les questionner. Il convient de débusquer ces a priori clandestins, pas par souci maniaque, ni pour ergoter, mais par crainte qu'ils nous abusent. Car il se pourrait bien que ces a priori soient des attributs du fleuve, mais pas du tout des attributs du temps. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du fleuve, car cette analogie a le mérite de poser de passionnantes questions. Par exemple celle-ci. Le temps s'écoule-t-il par rapport à quelque chose ou non ? Puisque nous admettons implicitement que le temps est tel un fleuve, creusons la métaphore. L'image du fleuve sous-entend qu'il y a un lit dans lequel celui-ci s'écoule. Transposons alors la question. Dans quoi le fleuve-temps s'écoule-t-il ? Sournoisement, l'idée d'écoulement vient habiller le temps d'une sorte de hors-temps, car pour dire l'écoulement d'une chose, il faut imaginer une autre chose qui ne s'écoule pas, dans laquelle la première chose s'écoule. En l'occurrence, s'agissant du temps, l'idée d'écoulement postule implicitement l'existence de quelque réalité dans laquelle il passerait et qui, elle, ne s'écoulerait pas. Curieusement, le temps se trouve ainsi rivé à son contraire. Ainsi, chemin faisant, notre analogie nous conduit à déduire que quelque chose échappe au temps. Ce quelque chose, c'est ce dans quoi il s'écoule. L'affaire est d'autant plus troublante que la perspective pourrait changer si l'observateur, au lieu d'être posté sur la berge du fleuve-temps, se laissait glisser en barque au fil de l'eau. L'eau serait alors pour lui un présent immobile, sempiternel, et ce sont les paysages traversés qui se dérouleraient sous ses yeux. Le passage du temps, ou le temps s'écoulant, serait donc une question de point de vue, de référentiel. Est-ce lui qui nous emporte, ou nous qui le voyons passer ? La métaphore évoque surtout le point de vue de celui qui se tient sur le rivage et ne participe pas au mouvement du fleuve-temps. Que nous dit la physique à ce propos ? Surprise, elle demeure elle aussi ambiguë. Elle ne corrobore ni n'exclut l'idée d'un hors-temps au sein duquel le temps passerait. Tout dépend en effet de la façon d'interpréter ces divers formalismes. Considérons par exemple la théorie de la relativité restreinte. Elle met en scène un espace-temps à quatre dimensions, trois d'espace, une de temps, substrat de l'univers, a priori privé de tout flux temporel. Dès lors, comment rendre compte du passage du temps ? Le physicien Hermann Weyl l'envisageait déjà comme directement lié à notre trajectoire dans l'espace-temps. En somme, c'est notre propre mouvement qui temporaliserait l'espace-temps. Notre trajectoire serait à l'origine du sentiment que nous avons que le temps passe. Le temps ne passerait pas de lui-même, nous le ferions passer en circulant dans l'espace-temps. Tout aurait donc été là, sans distinction, ce que nous nommons le passé, le présent et l'avenir, relié en une espèce de réalité dépourvue de temporalité que nous découvririons pas à pas. L'espace-temps n'aurait pas de temporalité proprement dite, mais nous, les observateurs, nous lui en donnerions une du fait de notre propre dynamique. Selon cette interprétation, le temps paraîtrait s'écouler au sein d'un hors-temps qui ne serait autre que l'espace-temps lui-même. Mais d'autres physiciens considèrent au contraire qu'il n'y a pas d'extériorité au temps, que tout est dans le temps, rien qui n'existerait hors de lui. Le temps ne s'écoulerait alors pas dans quelque chose d'intemporel. Il se construirait plutôt au fur et à mesure, créant du présent neuf, gagnant peu à peu sur le néant, instant après instant, sans coloniser un territoire existant de toute éternité. Alors le temps a-t-il, oui ou non, un lit ? La question demeurant ouverte, je vous propose que nous nous arrêtions là, histoire de savourer la jouissance que procure le fait de savoir, avec certitude, qu'on ne sait pas.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. « Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule, Clémence Alézard, Eve Etienne. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Clara Galivelle. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, et nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd, chiche. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour, et souvenez-vous, rien n'est établi.
Mécanique du vivant, une collection de podcasts France Culture.
Il y a 40 000 ans, les derniers hommes de Néandertal disparaissent. Deux espèces de mammifères survivent grâce au collectif. Les premiers sont les hommes, les autres sont les loups. Ils sont voisins, souvent rivaux et parfois ennemis.
Mécanique du vivant, saison 1, Le Loup. Une collection de podcasts de Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux. Avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.